Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Tous les jours, retrouvez dans nos magasins Auchan une sélection de poissons frais entiers ou de coquillages à moins de 5 euros le kilo.
Voilà, de bons produits de la mer pour mes plats et mes plans de chat.
De quoi vous régaler toute l'année avec une pêche de saison à petit prix. Auchan, avec plaisir. Moins de 5 euros le kilo de poissons frais entiers ou de coquillages. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, Canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Daniel Riolo, journaliste RMC, Perry Collegas, journaliste à Marianne, et Emmanuel Doncourt, journaliste indépendante. Le RN, premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027? On en parle dans un instant. Vous nous appelez au 32-16. À 14h30, ce sera RMC Conso. À 14h40, les immanquables, Paul, et puis on joue.
Oui, on joue. Un cadeau exceptionnel à vous offrir cette semaine. RMC vous envoie en Allemagne pour assister à la finale de l'Euro 2024. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Berlin, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC présentes à Berlin. Et bien sûr, vos deux places pour la finale de l'Euro le 14 juillet dimanche à 21h. Pour ça, c'est simple. Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour jouer, pour vous inscrire en envoyant Euro au 732-16, Euro au 732-16.
RMC Estelle Midi.
La déconvenue du jour. Déconvenue hier pour le RN à l'issue du second tour des législatives. Le Rassemblement National, qui se voyait encore à Matignon il y a quelques jours, se retrouve ce matin relégué à la troisième place à l'Assemblée Nationale. Mais pour Marine Le Pen, ce n'est que partie remise, Paul.
La marée monte. Voilà ce qu'a dit Marine Le Pen hier soir après la publication des résultats du second tour des élections législatives anticipées. Alors le RN, troisième force politique à l'Assemblée, réussit quand même un score historique, 143 députés, ce qui fait quand même de lui le premier parti politique de l'hémicycle. En 2022, déjà, il passait de 8 à 89 députés. Cette fois-ci, le RN s'affirme comme l'une des, si ce n'est la première force d'opposition à une éventuelle coalition entre les macronistes et la gauche dont on parle depuis midi. Alors, même si on se réjouit de ces chiffres, au sein du parti, on sait reconnaître la déception. Eux qui attendaient une majorité absolue il y a une semaine, Marine Le Pen reconnaît même la défaite. La marée n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. Par conséquent, notre victoire, eh bien, elle n'est que différée. Marine Le Pen, qui compte sur les résultats de ses élections anticipées, et la potentielle cacophonie politique qui nous attend pour prendre le pouvoir dans 3 ans. Emmanuel Macron va gérer maintenant la situation qu'il a imposée aux Français. Je ne sais pas comment il va faire, a conclu celle qui visera très certainement l'Élysée dans 3 ans.
Le RN, premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027? Vous nous appelez au 32-16. Perico, est-ce que c'est sauter pour mieux reculer? Ou plutôt reculer pour mieux sauter, pardon.
Je pense
l'absus
que,
révélateur,
je l'ai dit tout à l'heure, ils auraient eu la majorité ou la majorité absolue, ils auraient été confrontés à une réalité de former un gouvernement et de gérer la France, qui aurait été évidemment un énorme problème. Déjà par rapport à leur capacité et leur expérience, je vous signale que tout le monde avait visé 2027. Il n'y aurait pas eu la blague du 9 juin, tous les partis attendaient 2027 et on se préparait en conséquence. Bon, donc là, ils sont pris de court. Je fais quand même remarquer que, avec un barrage qui a été d'une efficacité totale, une dernière semaine de campagne où j'ai tout entendu, des critiques tout à fait respectables, légitimes contre le RN, et des allusions à la Deuxième Guerre mondiale, au pétinisme, au nazisme, à la collaboration. Je rappelle seulement, et j'aime toujours le rappeler, que le gouvernement de la collaboration, c'était des anciens socialistes, des anciens communistes, que Pierre Laval était un ancien socialiste et que René Bousquet...
Si tu peux le répéter, le crier fort,
non, mais allez-y,
ça rentre dans la tête.
Déa, le pire des collabos, était un ancien socialiste. Doriot, le pire des collabos,
il faut le dire,
était un ancien député communiste.
Pierre Laval, on va te répondre que le RN d'aujourd'hui n'est pas
les pédéristes. Sauf qu'on
parle de l'histoire des partis.
Et René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, qui a déporté des enfants juifs à Bonne-la-Rolande, était radical socialiste. Donc, plus d'allusion Godwin par rapport à la guerre et le RN.
Mitterrand était pédériste et socialiste.
Le RN peut-il y arriver en 2027?
Donc, je dis déjà, malgré cette campagne dont on vient d'avoir.
Tu commences à partir, à mon avis, ça va encore.
Malgré cette campagne, il y a du malgré son de campagne, il reste à 12 millions de voix et 143 députés. C'est mathématiquement un score inattendu par rapport au barrage qui s'est fait. Maintenant, une heure nouvelle s'ouvre pour eux. Ils sont pas amenés à gérer la France. Ils sont dans une situation où ils vont regarder ce que font les autres. Parce que c'est quoi cette autre majorité ? Ensemble et le Front Populaire. Ce sont pas des gens, les 300 députés, quand on rassemble LR et ces 300 députés n'ont pas été élus jamais pour un programme qu'ils ont proposé. Ils ont été élus parce qu'on a voulu sauver leur siège pour que ça soit pas un RN qui l'ait. Il n'y a pas de mobilisation politique, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. C'est juste un barrage pour sauver
et
des
sièges. Est-ce que tu crois, Perico, je pose une question parce que tu me fais penser à ça. Est-ce que tu crois que l'ensemble des 11 millions de Français qui ont voté pour le parce RN 12, ont voté pour le programme du RN?
Ah oui. C'est ça la différence. Et si?
Non.
Alors, attendez, ils l'ont clamé, ils l'ont maintenu. Ah,
tu les as interrogés, les 11 millions, les uns après les autres?
Non.
Les uns après les autres?
C'est pas ça, je parle de la clarté. Les autres ne proposaient rien.
Il n'y avait pas un dégagisme de la Macronie, du socialisme.
Ça fait partie du programme politique. Alors que les autres, c'était voter pour le candidat qui est arrivé en tête parce qu'il faut barrer la route au RN. C'est pas un programme politique. Au moins, ils ont été élus pour leur programme. Ils ont été élus par la détestation de certains Français avec le système actuel, par tout ce que tu veux, mais ils ont été élus pour quelque chose qu'ils portent en eux. Les autres ont été élus pour des idées qu'ils ne portent pas. Hollande a été élu par des gens.
Il y a de très nombreux auditeurs qui nous ont appelés ici au 32-16 et qui, la phrase revenait souvent. Bah, pourquoi pas eux? On n'a pas essayé. C'est-à-dire que tout le reste, on le met de côté. On verra bien avec le RN. Donc, tu crois que c'est vraiment une adhésion au programme?
Le barrage a fonctionné. Je vous signale qu'avec trois tiers, on peut toujours dire que les deux autres tiers sont contre toi. Moi, je dis qu'il y a deux tiers des Français qui veulent pas de Mélenchon. Il y a deux tiers des Français qui veulent plus d'Attal. Et il y a deux tiers des Français qui veulent pas de Marine Le Pen et de Bardella. Donc, je vous dis seulement que maintenant, il y a trois ans, ils ont trois ans pour se préparer, pour corriger le tir, pour affiner, pour concevoir un vrai programme politique.
En
2027.
Depuis 2017, ils ont le temps de
préparer. Sauf qu'ils respectaient les échéances. Donc là, je vous signale que le président de la République vient de leur faire un cadeau énorme. Les autres vont arriver en 2027 en ordre désuni. Tous les autres partis, eux, vont arriver en ordre de bataille, en ayant pris une gamelle là, mais avec la certitude que, cette fois-ci, les Français peuvent leur demander, voilà. L'inquiétude, elle est là.
Le RN, premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027? Vous nous appelez au 32-16, Emmanuel.
Alors, va falloir qu'il bosse, parce que il bosse pas du tout. Je vois rien que chez moi, à Dijon, on avait une candidate au second tour, qui s'appelle Céline Amblot-Cornille, qui disait absolument n'importe quoi devant des journalistes de France 3 complètement médusés, qui savaient même plus quoi répondre. En disant que l'argent, on va le trouver. Il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On a plein de solutions. Avec l'immigration, les cartes vitales, il y a beaucoup de fraude à la carte vitale. On a plein de propositions comme ça. Et des candidats comme ça, on en a vu, qui ne portaient pas forcément une casquette nazie, juste qui ne sont absolument pas préparés. On a raclé les fonds de tiroir. Ils sont pas prêts. Et est-ce que 3 ans, c'est suffisant pour être prêt?
C'est une
vraie question. Mais encore faut-il travailler les sujets de fond. Il faut travailler les sujets de fond.
En 15 jours, ils font 143 sièges. Emmanuel, tu t'imagines ce qu'ils vont faire en 3 ans?
Mais il faut qu'ils bossent sur les sujets de fond. Et puis, il y a autre chose. Moi, je pense pas que les gens qui ont voté RN ont tous voté pour le programme. Il y en a beaucoup ici, dans l'émission, qui nous ont dit qu'ils avaient même pas lu le programme. C'était un vote contestataire et que c'était un vote pour le pouvoir d'achat.
Et on n'avait pas essayé ce parti-là. Tous les autres, on les a essayés, on n'en veut plus.
Oui, oui. Moi, j'ai jamais essayé l'héroïne et.
Très clairement, quand on nous disait, quand les auditeurs nous disaient, ce sont les seuls qu'on n'ait pas essayé. Très clairement, ça veut dire tous les autres on a essayé, ça marche pas. Donc voilà, le rejet des autres.
Si on ne relève pas ce pouvoir d'achat, la pauvreté va emmener vers cet extrême-là. Il faut absolument qu'on relève.
C'est pas le seul motif du vote RN.
Non. C'est pas les seuls motifs. Il y en a beaucoup qui sont allés là.
L'un des plus gros motifs du vote RN, c'est l'angoisse existentielle.
Bien sûr.
Et le pouvoir d'achat fait partie de cette angoisse existentielle, Daniel.
Pas que. Sécurité, immigration. La question, c'est.
Peut-il y arriver en 2027?
Non, je ne le crois pas. Tu voulais terminer, pardon, Emma?
Non, mais je dis le pouvoir d'achat, je pense, est beaucoup plus. Ça a montré beaucoup plus prioritaire que ces histoires de sécurité, d'immigration. Et comme je disais, la criminalité n'a pas explosé en France, alors que la pauvreté, elle explose en France,
donc,
évidemment.
Pourquoi le RN n'y arriverait pas en 2027?
Parce que qu'ils aient une tête d'affiche, donc Marine Le Pen, si elle se représente capable d'aller au second tour comme elle l'a fait là, elle se heurtera toujours à cette barrière qui est déjà très haute, de 40-45%, comme la dernière fois. Mais elle se heurtera toujours à ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire qui est l'opposition des autres et le fameux
Front républicain.
Et même si elle le pétait, parce que tu n'as pas une grande mobilisation, les gens n'y vont pas tous, ou qu'elle arrive à grappiller les fameux 5 points. Mmh. C'est encore autre chose, les législatives derrière, qui doivent venir confirmer ton succès. Le côté automatique, historique, puisque on dit toujours la 5e République a toujours proposé que quand le président a été élu, dans la foulée, les législatives qui suivent dans le mois d'après, elles confirment et elles confortent et elles donnent une majorité au président. Il me semble que ces dernières semaines, on a vu que le côté historique de la 5e République, il a beaucoup souffert de nouvelles exceptions. Mmh. Et il en souffrira aussi. Aux législatives, tu auras à nouveau ce barrage. Donc, ils ne pourront jamais gouverner. Et ça m'amène à une réflexion qui est celle de regarder un petit peu le résultat du RN qui est en constante évolution, progression sur les 20 dernières années, depuis qu'ils ont fait le gros résultat de 95.
Ouais.
L'année où ils ont fait le moins, tu sais quand c'était ? 2007. Jean-Marie Le Pen ne fait que 10%.
Parce qu'il y avait une franche opposition entre LR et socialistes.
Parce qu'il y avait une vraie droite. Une droite qui n'a pas peur, une droite qui a annoncé des choses, mais qui, malheureusement, a été trahie derrière par les vaines promesses de Sarkozy, qui est en fait le grand responsable du massacre de la droite et de l'État dans lequel est LR aujourd'hui, le parti du général. Parce que lui, la sécurité, il a juste considéré que c'était aller se mettre au pied d'une tour et de dire « il faut carchériser tout ça ». Ou que ça a été juste l'autorité de dire « casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture ». Parce que s'il avait bien fait, parce que ce que les Français, au-delà du pouvoir d'achat qui est une réelle, je ne dirais jamais le contraire, Emma, jamais je dirais le contraire de ça, que c'est une vraie préoccupation. Mais que à partir du moment où, dès qu'on combat l'angoisse existentielle et qu'on la transforme, la laïcité, l'immigration,
qu'on transforme ça
immédiatement en accusation de fascisme,
non mais...
on n'avancera jamais.
Tu as raison sur ce que tu dis en 2007. Mais 2007, il y avait déjà le pouvoir d'achat. Il y avait déjà le travail plus pour gagner plus.
Mais donc, c'est bien ce que je te dis. Si Sarkozy a trahi toutes les promesses, ou si son élection a consisté le lendemain à être sur le yacht de Bolloré ou à être au Phuket's pour fêter la victoire, on avait déjà compris que ça foirerait. Donc, le RN ne pourra y arriver que s'il y a la proportionnelle. Parce qu'il n'y aura pas d'alliance avec personne, donc proportionnel, où il sera le premier parti, puisqu'il est le premier parti de France. Et moi, j'ai toujours pensé que les extrêmes, quand les extrêmes étaient si hauts, c'est parce qu'on n'écoute pas les gens. Que ce soit LFI, le NFP aujourd'hui, ou le RN, si on ne veut pas écouter ce que disent vraiment les gens et qu'on les discrédite immédiatement,
Daniel,
en les traitant...
Tu sais quoi ? Je te propose d'écouter les gens. Ce que nous disent les gens. Tu veux bien ?
Vas-y, écoutons-les.
On va au 32-16.
Mais sans tout de suite les discréditer en leur disant
non,
vous êtes des débiles, êtes des racistes et des fachos. Et en gros, la voix de la raison, c'est le bloc central, c'est le
monde. Justement, Daniel,
ça fait un mois qu'on les insulte.
On va pouvoir dialoguer, avec Jean-Marc. Vous pouvez pas me dire, on n'écoute pas les gens. Et quand je vais vous faire écouter les gens, ne pas les laisser parler.
Seul ou avec Panaclop ?
Jean-Marc, il est avec nous au 32-16. Et il nous appelle depuis Arles. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
Merci à vous.
Vous faites quoi dans la vie, Jean-Marc ?
Alors moi, je suis dans le commerce.
D'accord, on est à Arles même, hein ?
C'est ça.
Bon, Jean-Marc, le RN, premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027 ?
Alors moi, je précise bien d'avance, même si je ne le souhaite pas, je pense que oui. Parce que si, à un moment donné, la gauche ne se réveille pas sur le plan quand même sécuritaire, même si ce n'est pas la préoccupation des Français, en faisant l'autruche, que tout va bien dans le meilleur des cas, on va encore sur une explosion du RN, parce que là, au niveau de l'insécurité et des jugements qui se font... c'est plus possible. Alors Emmanuel dit que ça a moins explosé, ok, mais les faits sont de plus en plus graves et de plus en plus violents. Donc ça, il faut en tenir compte. Et puis, deuxième chose, ils peuvent y arriver aussi, parce qu'honnêtement, avec les élections qu'on a eues là au deuxième tour, c'était dégoûtant de voir ces alliances à n'importe quoi, qui n'avaient ni queue ni tête. En fait, ça agace les gens, et sur un moment d'agacement, on peut partir sur complètement autre chose, parce qu'on est dérouté, et on est écœuré, en fait, on a l'impression qu'on on s'en fout de nous, et
mais
que
Jean-Marc
veut gagner sa place, et tout, quoi.
Jean-Marc, j'entends ce que vous dites. Malgré tout, ça a été dit pendant cette campagne, par certains, on doit voir des socialistes associés à LFI, que c'était des alliances contre nature, ça a été dit aussi du côté des macronistes, même au sein de certains ténors socialistes qui avaient bien du mal à s'associer avec certains France Insoumise. Et malgré tout, le Front Républicain, il a fonctionné là hier soir.
Oui, hier. Mais parce que les gens ont été déroutés, qu'ils ont plus su quoi faire, ils ont fait barrage au Front National, mais sans conviction. Mmh. En fait, quand vous retrouvez, moi je vous le dis, au premier tour j'ai voté centriste parce que bon, moi je suis ni je suis pas ni des extrêmes, je n'aime pas ça. Mmh. Au deuxième tour, je me retrouve avec l'extrême gauche, l'extrême droite. Je fais quoi? J'ai l'impression que c'était pour un imbécile, c'est-à-dire qu'on me dit ben soit tu votes pas, soit tu votes blanc, ou soit ben il faut choisir et par dépit. Donc à un moment donné, c'est plus possible ces politiques de choisir par dépit. Donc là, moi j'étais écœuré par ces alliances qui sont faites.
C'est intéressant.
Aussi bien de la du côté de la droite, sur qui avec l'URN que Mélenchon avec les la gauche ou moi j'ai été abasourdi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites Jean-Marc parce
que j'ai plus envie de voter, plus je vote depuis l'âge de 18 ans, mais je vais plus jamais voter.
Jean-Marc, ce que vous dites c'est intéressant parce que ça rejoint ce qu'on a entendu en première heure de l'émission. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de nous écouter en première heure. À midi, on a demandé aux gens quel leur état d'esprit, euphorie. Et la plupart, comme vous, nous ont appelés. Alors, il y avait un socialiste, vous êtes centriste, on avait un électeur du RN, et tous, vous partagez le même sentiment, c'est la colère.
Ah ben oui, on est
des... Est-ce que vous pensez que cette colère, est-ce que vous pensez que cette colère, si elle n'est pas apaisée, durant les deux ou trois années qui viennent, ça peut profiter au RN?
Je pense. Moi, je pense, parce que on est tellement agacé, on est tellement, parce que finalement, quand on regarde, les seuls qui ont été un peu tranquilles, un peu clean dans leur campagne, finalement, c'est eux. Ils n'ont pas cherché à faire des trucs bizarres. Finalement, quand on réfléchit.
Et LR aussi qui a résisté à tout ça, à part Ciotti le traître. Le reste a été digne.
Les LR aussi, mais le problème, c'est que là, on s'est retrouvé dans beaucoup de villes à se retrouver avec les deux extrêmes.
Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Je vous presse un petit peu, mais vous êtes nombreux à nous appeler au 32-16. Jean-Marc, qui vous appelez depuis Arles, et puis il y a Philippe Moreau-Chevrolet qui est avec nous. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. Vous êtes professeur de communication à Sciences Po. On l'entend depuis le début, ça fait bientôt 3 heures d'émission, enfin non, pas tout à fait, 2h20. Mais il y a beaucoup de colère parmi ceux qui nous appellent au 32-16. Et quelle que soit leur couleur politique, que ce soit à droite, extrême droite, que ce soit au centre, à gauche, est-ce que plus que jamais, aujourd'hui, la France est fracturée?
Alors là, elle est divisée entre des différents groupes qui sont chacun représentatifs de leur petite niche, mais on rejoint en fait le fonctionnement de tous nos voisins européens quasiment, qui ont tous des régimes parlementaires avec des groupes. Il n'y a pas d'autorité centrale, de bloc majoritaire, etc., qui structure tout. Ce sont des discussions, des coalitions. Et au fond, c'est nouveau, mais ça peut aussi contribuer à faire baisser les tensions, parce qu'au lieu d'avoir un jeu de « le gagnant prend tout », c'est un petit peu ça, la Ve République, on a un jeu de « on discute ensemble et on essaie de construire quelque chose ensemble ». On voit bien que c'est difficile, effectivement, tout le monde râle, mais au final, quand même, l'intérêt du pays, c'est ça, c'est pas d'aller dans des solutions extrêmes à chaque fois. Et d'ailleurs... La grande majorité des Français a voté pour ça.
Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous croyez à la théorie, pour l'instant ce n'est qu'une théorie, une éventualité, d'une coalition qui se mettrait en place et qui serait capable d'apaiser les tensions?
Alors oui, complètement, c'est une possibilité, d'autant plus qu'il y a 3 ans pour faire ça. Mais il faut trouver la bonne combinaison et la bonne personnalité pour incarner tout ça. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de faire vraiment de la politique, qui est capable d'avoir une vraie personnalité aussi. Pas juste ce qu'on appelle un Playmobil et pas juste un technocrate. Il faut quelqu'un qui ait vraiment la capacité. Ça peut être Christine Lagarde, ça peut être Marine Tondelier, ça peut être Raphaël Glucksmann, tous les noms, ou François Bayrou. Tous les noms circulent depuis ce matin, mais il faut quelqu'un qui ait la capacité de construire.
Mais le défi est énorme, Philippe Moreau-Chevrolet.
Le défi est colossal parce que...
On est d'accord, on parle d'apaiser le pays, donc déjà c'est énorme, vu les tensions qu'il y a dans ce pays. Oui. Et puis la responsabilité aussi d'une telle coalition, ça serait de parvenir à couper le pied sous l'herbe du RN pour 2027.
Alors sur 2027, il y a quand même... Moi j'observe, il y a eu 2 déclarations de candidature hier soir, Édouard Philippe et Gabriel Attal, sur les quasi-déclarations de candidature. Il y a quand même quelque chose qui est l'un de vos invités le disait, le plafond de verre du RN. On a l'impression qu'il n'y a pas de réserve de voix pour Marine Le Pen en 2027. Je pense que ça, c'est quelque chose que le RN va regarder vraiment de très près, parce qu'on a eu une sorte de test grandeur nature. Et pour le RN, clairement, c'est pas, ils sont pas au niveau. Ils peuvent pas, pour l'instant, être élus en 2027. Après, ça peut changer. Mais moi, je pense que ça ouvre une fenêtre pour arrêter que tout le monde se définisse par rapport au RN et essayer de construire un vrai projet positif pour les Français, qui tiennent compte de tout le monde et qui ne soient pas exclusifs.
Merci beaucoup Philippe Moreau-Chauvrelet d'avoir été avec nous, professeur de communication à Sciences Po. Chantal nous rejoint au 32-16. Bonjour Chantal.
Bonjour.
On est en Haute-Garonne.
Oui.
Bon, Chantal, le RN, premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027 selon vous?
Oui, pour moi, oui.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Mais parce que déjà, ils font pas trop de. Ils nous offrent pas trop de cadeaux. Ils disent ce qu'on peut faire et pas faire avec les moyens qu'ils ont, puisque la France est déjà bien, bien, bien en bas, endettée. Et on est au train où on va pas finir de s'endetter, hein, parce qu'on nous enlève tout, nous, les Français, pour. Je suis pas raciste, hein, mon petit-fils est algérien, je suis française. Mon petit-fils est français, mais son père est algérien. Mais enfin, quand il s'agit d'intervenir pour les pays étrangers, tout le monde court. Quand il faut recevoir des immigrés, quand il faut recevoir des gens, moi je vois ma mère habite dans l'Ariège à Saint-Girons, ils ont tout réquisitionné pour les Ukrainiens. Et j'ai une de ma famille qui arrive pas à se loger, quoi. Et est-ce que c'est normal ça, que les Français tombent sous les ponts et que les étrangers arrivent et ils ont tout? C'est pas normal.
On est pris par le temps, mais c'était important de vous entendre, Chantal. Merci d'avoir été avec nous. C'était court, mais c'était important d'entendre Chantal parce que en Haute-Garonne, exemple, voilà, de cette colère qui continue de soudre dans notre pays et qu'il faudra en tout cas tenter d'apaiser pour ceux qui voudraient contrecarrer le RN. Merci à Chantal. Donc, on vous a posé la question, le RN premier parti de France, mais battu, peut-il y arriver en 2027, Paul?
L'auditeur y croit, en tout cas pour 79%.
Ah bah, c'est très clair.
Et voilà.
Il y a un vrai défi. Dans un instant, RMC conso, avoir une gourde d'eau avec soi, bah, c'est pratique, c'est écologique, mais laquelle choisir? RMC conso, c'est tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Et Sabrine Mimouni est avec.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Salut Sabrine.
Salut Rémi.
De plus en plus de Français s'équipent de gourdes. Tiens, Perico est en train d'en discuter avec Emmanuel. Je pense qu'ils sont en train de discuter de notre sujet et ils se renseignent auprès d'Emmanuel pour savoir quelle gourde choisir. Ben, tu vas nous le dire. Ouais, pour des raisons écolo-financières en tout cas. Avec le début de l'été, c'est peut-être le moment de s'équiper. Sabrine Mimouni, quelle est la première chose à savoir pour faire son choix?
Alors la première chose à savoir si on veut choisir une gourde qui soit résistante et saine, c'est qu'il faut impérativement oublier le plastique. Alors je sais que ça peut être tentant puisque les gourdes en plastique sont généralement les moins chères.
Et les plus légères.
Et plus légères aussi, c'est vrai.
C'est
mais elles sont surtout moins chères que les autres généralement. Mais la réalité, c'est que le plastique n'est pas du tout adapté au stockage de l'eau. Une étude menée en 2022 par des chercheurs danois a même trouvé 400 substances chimiques stockées. Enfin, présente dans de l'eau du robinet stockée dans des gourdes en plastique.
Alors,
donc voilà, le plastique, c'est la première chose à oublier.
Bon, comment on peut expliquer la présence de ces substances-là?
Alors, j'en ai discuté avec un microbiologiste qui m'a dit que contrairement à ce qu'on
pourrait penser... Tu as des conversations intéressantes, hein, dès le matin.
Complètement, mais je prépare mes chroniques. Il m'a expliqué qu'en fait, le plastique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une matière qui s'abîme hyper facilement. Et en fait, à partir du moment où l'intérieur du récipient est rayé, eh bien, ça libère des microplastiques, des substances chimiques...
La particule fine.
Tout à fait, dans l'eau. En fait, c'est un peu comme les poils anti-adhésifs. Dès qu'elles sont rayées, ça va libérer des microplastiques et des PFAS dans les préparations.
Bon, alors, on privilégie quel matériau? Quel autre?
Alors, on peut choisir l'inox, qui est super, puisque c'est un matériau qui est sain et qui est aussi compatible au contact alimentaire.
C'est quoi l'inox? On peut avoir un exemple?
L'inox, oui, c'est ça.
C'est exactement ça. J'en ai trois comme ça.
En plus, c'est une marque qui est plutôt connue. Ça coûte pas très cher. Ça coûte 27 euros.
Oui, c'est la marque Decathlon, ça.
Non, c'est Quetch.
C'est pas Decathlon?
Non, c'est pas Decathlon. C'est une marque.
Mais il faut les nettoyer régulièrement.
Oui, il faut les nettoyer régulièrement, tout à fait.
27 euros la gourde.
27 euros la gourde. Mais c'est plutôt efficace parce que c'est une matière qui. On peut la réutiliser, ouais.
Ah bah, c'est le principe, tu vas pas l'acheter.
Oui, complètement.
Ah bon? Ah, c'est la gourde, tu vas acheter à la poubelle direct.
C'est un peu contre-productif pour le coup.
J'en ai bien une de gourde.
Emmanuel, pas de misogynie dans mes propos, mais tu peux être gourde parfois quand même.
C'est ce que j'aime bien.
Parce que pour Matignon, il en faut une pour Matignon, c'est pour ça.
Après, le problème de l'inox, c'est que c'est souvent fabriqué en Chine.
Aïe.
Ça, il faut quand même le savoir. Donc, si on veut une gourde.
Un inox frelaté?
On sait pas. Mais en tout cas, ça reste de l'inox qui vient de Chine. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de...
Tu sais pas.
On achète quoi alors?
On peut acheter du verre. Le verre, c'est souvent fabriqué en Europe, comme cette gourde Gobi qui coûte 20 euros et c'est du verre français. Et certaines d'entre elles sont même fabriquées en Gobi.
Gobi.
Gobi, G-O-B-I.
comme le désert.
Ça coûte 20 euros, c'est pas très cher, donc c'est plutôt raisonnable.
Mais petite, là, tu bois deux gorgées.
Oui, bah on la re-remplit.
Non, mais si on veut garder l'eau, si on veut garder de l'eau au frais, c'est quoi? C'est plutôt.
Bah, si on veut garder de l'eau au frais, c'est plutôt isotherme à double paroi.
Ah oui.
Complètement. Et le verre, le verre ne fait pas. Non, le verre ne fait pas.
Avec ça, elle est chaude au bout d'une demi-heure.
Non, si on veut une gourde pour l'été, c'est vraiment inox à double paroi. C'est essentiel.
Absolument.
Bon, en même temps, il faut pas que l'eau chauffe,
faut protéger.
Il faut protéger la gourde.
Complètement, oui. Complètement.
Bon, est-ce qu'il y a autre chose à avoir en tête pour choisir le meilleur modèle?
Eh bien oui, il faut avoir en tête la taille du goulot. C'est un peu con, on dit comme ça peut-être, mais plus le diamètre est gros, et plus on peut facilement la nettoyer. Parce que si on prend un tout petit goulot, c'est difficile à nettoyer quand même. Et il faut la nettoyer quotidiennement.
Tu vois, c'est là qu'on voit parfois. Parfois, tu manques d'un côté pratique. Ça, Daniel, ne le prends pas quand même.
En fait, je pensais que c'était du bon sens et que ça méritait même pas d'être précisé, mais tu fais bien de le dire.
Ah, mais c'est important parce qu'il y a des gourdes qui ont vraiment un diamètre qui est tout petit et c'est pas pratique à nettoyer.
Mais qui nettoie pas sa gourde?
Mais il y a plein de gens qui les nettoient pas. D'ailleurs, j'en profite tous les jours et pour rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'une gourde mal nettoyée contient 14 fois plus de bactéries qu'une gamelle de chien.
Évidemment.
Et après, on peut aussi choisir des gourdes auto-nettoyantes comme celle-là. Mais bon, elle coûte quand même 109 euros, donc c'est un budget. C'est une gourde de la marque Lark, elle coûte 109 euros. Donc il faut avoir le budget qui va.
Auto-nettoyant. Oui, mais ça. T'as plus rien à faire, tu sais, il y a des feignants.
En fait, la
merci. Sabrine, tu seras là demain?
Non, je serai là lundi prochain.
Lundi prochain, ouais. Bah très bien. Dans un instant, le rendez-vous est pris. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi. Mais avant cela,
c'est le moment de vous inscrire.
Il était temps, Paul.
Pour vivre l'expérience RMC Euro 2024, gagnez votre voyage à Berlin pour la finale de l'Euro qui aura lieu dimanche, le 14 juillet à 21h. Vous vivez évidemment l'expérience RMC, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Donc inscrivez-vous tout de suite, vous avez 5 minutes en envoyant Euro au 732-16. Euro au 732-16.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi, les Français en direct, notre Tour de France de l'après-législative. Encore une fois, c'est vous qui allez avoir la parole.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Midi, comme tous les jours, midi 15h, RMC, RMC Story, portrait de la France de l'après-législative. Et là, on va à Bordeaux.
RMC, législative 2024, les Français en direct.
Et à Bordeaux, nous retrouvons Pierre Bourgès. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Alors, avec qui te trouves-tu?
Eh bien écoute, je suis avec Yvon. Yvon, il est ouvrier. Et en fait, là, je ne sais pas si tu entends, il y a un peu de bruit autour de nous. Oui. Mais on est sur un de ces chantiers, puisque aujourd'hui, c'est opération dévissage des barricades qu'il y a, tu sais, sur les devantures de certains commerces, puisque certains commerces à Bordeaux...
C'était
protégé. Et évidemment, c'est ça, voilà. Ils se sont protégés en cas d'éventuelle émeute, puisque certains commerces, parfois, sont un peu ciblés dans des moments un peu... dans des contextes un peu tendus.
Bon, ça s'est bien passé.
Globalement, ça s'est bien passé à Bordeaux. Oui, il n'y a pas eu de soucis hier soir. C'est pour ça que les commerces, là, tu vois, ils dévissent un petit peu tout ça avec son entreprise. Et Yvon, il a 33 ans. Il est donc salarié d'une petite entreprise à Bordeaux. Il a voté Nouveau Front Populaire hier et il est plutôt soulagé que le RN Rémi ne soit pas arrivé en tête.
Bonjour Yvon, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, euphorique hier soir, Yvon?
Euphorique, non.
Soulagé,
mesuré, un peu soulagé, oui. Ouais. Oui, un peu soulagé.
Bon, voilà. J'imagine. Ce matin, donc hier soir, soulagement, vous avez dû regarder les résultats jusqu'à très tard, j'imagine, ou en tout cas une bonne partie de la soirée. Ouais. Ce matin, là, maintenant, à la mi-journée, dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous pensez que le nouveau Front de Gauche peut effectivement parvenir au pouvoir?
Mais déjà, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont voté par dépit aussi. Ça, c'est une chose. Je pense que... j'espère, en tout cas, que ce nouveau front de gauche va essayer de rassembler, va être intelligent, va faire preuve de propositions qui vont pas tous se tirer dans les pattes. C'est ce qu'on espère, quoi. Je pense que je suis pas le seul.
Est-ce que vous craignez que ça se passe comme avec la NUPES?
Ah, c'est toujours la crainte. On essaye de croire en certaines valeurs et on croit que les gens qui vont les emmener vont être à la hauteur. Le discours de Jean-Luc Mélenchon hier m'a un petit peu crispé. Personnifier le
Moi, on a senti qu'il tirait la couverture à lui un petit peu quand même. Exactement, le premier à intervenir immédiatement dans les secondes qui ont suivi les résultats.
On se dit que ça repart un peu comme ce qui s'était passé lors des élections. Je pensais qu'il y avait eu une évolution là-dessus, vraisemblablement.
Apparemment non. Non. Ils vont quelles mesures vous fait croire en l'avenir dans ce que propose le nouveau Front Populaire? Très concrètement, s'il y avait une mesure à garder?
Franchement, je n'en ai pas particulièrement une. Ah. Non.
C'est intéressant.
Ah ouais, c'est normal, il n'y avait pas de problème.
J'attends de voir. C'est toujours pareil. On ne peut pas être sûr qu'ils vont s'engager sur une mesure. Et on ne sait pas. Le jeu politique est tellement vaste. Il va falloir qu'il y ait les avis vont être particuliers.
Il va falloir négocier, discuter, comme disait hier.
Oui, parce que. Ouais, et puis Rémi, je me permets, Yvon, vous me disiez aussi, effectivement, vous êtes plutôt d'une sensibilité de gauche, mais vous avez aussi voté le nouveau Front Populaire pour faire barrage à l'extrême droite, l'air de rien.
Mais comme beaucoup, je pense que même la réélection d'Emmanuel Macron dernièrement, ça a été le cas. On est dans ce marasme un peu politique. Il y a rien de là. On se dit on a fait barrage au FN, ça a fait taire beaucoup de gens qui étaient pro FN.
Mais quid de l'après, la libération. La mère interrogation, on l'a compris, Yvon, sur l'après. Ouais. Mais merci beaucoup, Yvon, d'avoir été avec nous.
C'est ça qui reste.
Et bon courage pour votre chantier à Bordeaux. Merci Yvon, merci Pierre Brogès, reporter RMC, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on passe aux immanquables.
RMC, Estelle Midi, les immanquables.
Non, avant, après.
Le résultat du jour.
Même si tous les résultats ne sont pas encore tombés, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a salué ce matin des bons chiffres pour les résultats du bac cette année. Les candidats sont plus de 85%, toutes filières confondues, à avoir obtenu leur diplôme du premier coup, dit la ministre. C'est un chiffre qui donne du bonheur, rajoute-t-elle. Il faut savoir que l'an dernier, le taux de réussite était légèrement en dessous de cette barre des 85% avant les rattrapages.
Emmanuel, pendant cette émission, tu as des résultats, toi ?
Oui, il y a les résultats qui viennent de tomber là pour mes jumeaux. Moi, on se demande ce que vaut le bac. Hein. J'en ai un qui a rien foutu, il a mention assez bien, donc tant mieux pour lui. Hein.
Ça fait un petit moment qu'on sait que ça vaut plus rien.
Non, mais bien sûr. Et celui qui a. J'ai l'autre qui a eu mention bien, qui a plus bossé, et il est pris nulle part sur Parcoursup, en fac. Ouais. En fac de sciences politiques. Donc moi, c'est bien gentil, le bac, il serait temps que Parcoursup, je suis très en colère, soit au niveau, parce que j'ai un gamin qui a bossé, un gamin passionné par la science politique, qui est pris dans absolument aucune fac.
Ça, c'est le sujet, Emmanuel, de Parcoursup, mais. Et tu dis aussi, j'en ai un qui a rien foutu, il a mentionné assez bien. Est-ce que tu, franchement.
Oui, il est doué.
Mais ce qui te met en colère, c'est vraiment ce que est devenu le bac.
Ce que est devenu le bac. Enfin, on a tous passé à peu près le même bac. Non, toi, t'es plus jeune, Paul.
Bizarrement. Très, très peu.
Mais bon, ça voulait dire quelque chose à l'époque d'avoir une mention assez bien, une mention bien, une mention très bien. C'était quelque chose. C'était un rite de passage, le bac, vers la vie adulte, vers les études supérieures. Et aujourd'hui, c'est les facs qui font ce. Avant, vous vous souvenez, on allait à la fac, on allait chercher son petit dossier, on repartait. Et la fac, c'était pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la fac qui fait ce que le bac ne fait plus. Voilà, donc pour une fois, c'était mieux avant.
Daniel,
de toute façon, on n'a fait que repousser les sélections à force de vouloir tout égaliser, le règne de l'égalité, donnons le bac à tout le monde. En fait, on ouvre les portes des études supérieures, mais sauf qu'on repousse le critère de sélection à plus tard. Et puis après, une fois que t'es dedans, après, ce sera sur le marché du travail où on laissera finalement, ce sera à la tête du client. En fait, on a fait n'importe quoi. Plutôt que de donner à l'école sa mission républicaine, qui est de donner l'égalité des chances au départ, parce que c'est ça qui compte, c'est que l'école, elle soit forte dès le départ et qu'ensuite, il y ait une sélection au fur et à mesure et que les meilleurs réussissent à avoir le bac et pas qu'on en fasse un cadeau à tout le monde pour qu'ensuite il y ait ce goulot d'étranglement dans les études supérieures. Bon, on a tout massacré, mais ça fait un petit moment que ça dure, hein, parce que quand la gauche a fait voter ça, le projet des 80% d'une classe d'âge au bac, c'était le duo à l'époque, je crois, Jospin Chevènement qui avait voulu de ça. Bon, voilà ce que ça donne aujourd'hui.
Perico, c'était mieux avant ?
C'était pas mieux avant, c'était. Alors qu'il n'y a plus rien.
Parce que le corollaire de tout ça, ça a été massacré.
Parle bien devant ton micro.
Profession de l'artisanat, notamment.
Donc c'était pas mieux avant.
Alors c'était pas mieux avant. C'était le bac était le bac. C'était, il faut utiliser le terme. Alors aujourd'hui, c'était une sélection qui ne gardait pour l'enseignement supérieur que les élèves qui avaient ces capacités, mais il y avait d'autres filières dans le qui ouvraient des carrières. Formidable.
Et qui ne déméritait pas.
Et qu'on a dévalorisé. Donc on a dévalorisé toutes les carrières comme ça, on a dévalorisé.
Le bac et la sanction accordée à ce qui est devenu la machine, la fabrique du crétin de l'éducation nationale à tout le monde, qui jette tous ces gens-là sur le marché du chômage. Voilà. C'est un fléau national. Voilà. Or, c'est un outil au départ essentiel. C'est une étape dans la vie d'un homme, c'est le bac. Voilà. Il y avait, vous avez connu le certificat d'études. Ah non, ça vous êtes trop.
Sauf que ne pas l'avoir, c'est pas la honte.
Alors, mais ça n'a plus d'importance.
Honte de pas l'avoir. On pouvait faire de belles carrières sans le bac.
Daniel, il n'y a pas de place après. En fac, et après à la fac, il n'y a pas de boulot. Donc, tu peux faire ce que tu veux, c'est le mur.
Le ralentissement du jour.
Auditeur francilien, si vous devez prendre le RER ou le Transilien pour vous rendre au travail juste avant ou juste après les Jeux, eh bien, il va falloir prendre votre mal en patience. Pour mobiliser ses salariés pendant la compétition, la SNCF a mis en place un allègement estival encore plus important que d'habitude. Alors oui, chaque année, cette procédure est habituelle, sauf que les associations d'usagers se sont penchées sur la question et elles dénoncent une opération qui démarre plus tôt que d'habitude et qui sera beaucoup plus importante que les années précédentes.
Franchement.
Ah, écoutez, je vais m'acheter.
C'est tout pour les JO et après débrouillez-vous, quoi.
Oui.
C'est ça. C'est
en moi, je ne vais pas me laisser avoir, je vais m'acheter un tout petit voilier, vous savez, un petit. Puis je vais faire sur la Seine pour aller, hop. Puis...
Non, mais là, on parle des franciliens, mais je pense que dans un certain nombre de provisions,
vous rendez compte,
c'est la même chose.
Au moment où on aura besoin de plus de mobilité, parce que beaucoup de gens, on va vous dire, non, mais attends. C'est...
Est-ce qu'on doit se payer? On n'a pas l'impression, parfois, je sais pas, Emmanuel, Daniel, qu'on fait tout pour décourager les gens, contrairement à ce qu'on leur dit, de prendre les transports en commun. Franchement,
le marché qui part dessus.
C'est Daniel. C'est une catastrophe, effectivement. Non, c'est pire. C'est on te pousse si tu peux, barre-toi quoi.
Oui,
si tu peux éviter d'être à Paris, va-t'en. Mais pas que pendant la période des JO.
Non, mais c'est pour ça que je dis ça.
Au sens plus large, hein. Si soit de toute façon tu es d'accord avec la dictature municipale, tu te déplaces à vélo et tu arrêtes d'aller dans tel et tel quartier parce que de toute façon on va tout fermer, on va tout transformer comme nous on en a envie. Et si tu n'es pas d'accord. Barre-toi de notre ville. C'est ça le message qui est envoyé par la dictature municipale.
Et ça fonctionne très bien.
C'est va-t'en. Donc petit à petit, on devra s'en aller.
Et ça fonctionne et pas très que Paris, bien. Nous, les villes de province, que tu t'appelles Dijon, que tu t'appelles Nantes, que tu t'appelles Bordeaux, que tu t'appelles Reims, on voit augmenter nos effectifs de plus en plus parce que les franciliens en ont ras-le-bol et que la politique de transport public est vraiment un facteur d'attractivité dans une ville. Ouais. Évidemment. Et c'est pour ça que tu as des villes comme Rennes, Dijon, Nantes qui explosent pour l'attractivité.
C'est le principe du barrage. On fait des barrages partout maintenant.
La ristourne du jour, Paul.
À l'occasion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence la semaine dernière, le PDG de Total Energy propose de plafonner le prix de l'essence pour ses clients qui ont contracté un contrat gaz-électricité. Patrick Pouyanné a déclaré envisager de peut-être baisser pour les clients abonnés le plafonnement à 1,99€ appliqué par le groupe au litre de carburant à la pompe. Un geste pour les consommateurs, avance-t-il. Et cette mesure n'est pas totalement rationnelle économiquement. Je ne l'ai fait qu'en France, pas ailleurs, dit Patrick Pouyanné.
Bon, bah, Total. Comment on sait Total n'est pas un méchant.
On a une carte spéciale. On a une carte spéciale.
Ouais, je sais pas comment il procédera, mais en tout cas, il pourrait le faire.
Il y a une carte Total.
Ouais. Donc, Total n'est pas méchant.
C'est pas
un grand méchant comme certains le présentent.
C'est pas du racket, hein. C'est une proposition commerciale.
Ouais.
Confondons pas. Ne confondons pas. Je sais pas.
Tu y crois pas? Ce que dit Patrick Pouyanné.
Non, ce que je comprendrais.
Il fait ça en France, non, il ne le fait pas ailleurs.
Pas
il est patriote.
Il n'est pas sympa, Patrick Pouyanné, parce qu'il pourra dire à mes clients Total Energy qui se ruinent, je vais faire une baisse. Donc le litre sera à 1,90 ou 1,92 que pour eux. C'est ce qu'on appelle un avantage commercial quand il y a un contrat. Mais là, on leur dit, si vous restez chez moi, vous continuez à payer le même prix. Parce que je vais peut-être augmenter, vous ne subirez pas d'augmentation. Je trouve que pour Total, c'est totalement maladroit comme principe.
Emmanuel.
Je suis pas cliente de Total Energy parce qu'ils, à part quand ils avaient fait leur ristourne il y a quelques mois, la plupart du temps ils sont quand même plus chers. Hein. Et nous en campagne ils sont pas là Total.
Ouais, mais c'est
c'est pas eux qui sont là en campagne, c'est les taux, c'est Super U,
c'est. Tu vas faire l'essence toi? Juste parce que c'est beau, c'est bien installé, machin.
On s'en fout complètement.
C'est ça qui va te motiver dans le fait d'aller faire de l'essence.
Ouais, en fait,
ils avaient des casquettes
Total.
Quand j'étais gosse.
Quand t'achètes Total, t'achètes une expérience. C'est comme quand t'achètes Monoprix en centre-ville. Oui, c'est exactement ça.
T'achètes quoi?
Tu achètes une expérience, tu achètes un service, tu achètes
un savoir-faire.
Tu cherches une propre
la qualité de l'essence.
C'est comme ça que c'est vendu.
La qualité de l'essence.
Le marketing de Total, c'est ça. Comme le marketing de
l'essence.
Le marketing Total, il m'a échappé.
Je suis convaincu.
Moi, je vais faire les
cher. Et la qualité des sandwichs dans au resto bar.
C'est comme ça que c'est monté.
Emballé dans du plastique.
La vidéo du jour.
Exhumée hier sur les réseaux sociaux, on y voit le joueur du 15 de France, Melvin Jaminet, tenir des propos racistes. Je cite, le premier arabe que je croise sur ma route, je lui mets un coup de casque. Une vidéo qui a fait réagir son club, le RC Toulon, qui va mener une enquête interne, mais aussi la sélection, le 15 de France, actuellement en Argentine pour une tournée de matchs amicaux. La Fédération française de rugby a décidé d'écarter le joueur du groupe France. Jaminet, lui, a présenté ses excuses sur son compte Instagram.
Oui, alors Emmanuel. Parlons-en des excuses, mais le truc écrit par quelqu'un d'autre qui est vide de sens, personne n'y croit. Quand tu regardes la violence de cette vidéo qui est tournée de nuit, il tient son portable à la main, la violence des mots, puis après ces espèces d'excuses rédigées par, je sais pas moi, une avocate ou un communicant, mais personne n'y croit. Il faut absolument l'exclusion, quoi, qu'ils fassent une enquête. Ils font tout ce qu'ils veulent comme enquête, mais la preuve, elle est quand même énorme. Personne n'a forcé à dire cette vidéo, et c'est l'exclusion immédiate. C'est intolérable, c'est immonde.
Il y a déjà une première décision qui a été prise par la Fédération française de rugby. Il est mis sur la touche.
Ah ben non, mais Toulon, ils font quoi?
Il faut une enquête interne.
Il faut une enquête interne, elle va être rapide, leur enquête interne. Ils ont raison de passer par une enquête, mais évidemment, l'exclusion.
En tout cas, la suspension pour l'instant.
Ouais, attends, punition.
Daniel.
Il n'y a pas à dire mieux que ce qu'a dit Emma. C'est tellement affligeant. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? C'est terrible. Le gars, de toute façon, la Fédé a pris immédiatement une décision. Il n'y avait pas tellement à tergiverser, hein. C'était assez clair, hein, la vidéo. Il n'y avait pas de il faisait nuit. Il n'y a pas d'excuses, en vrai. Non. Donc, il n'y a pas à tourner autour du pot. Le gars, il porte le maillot de l'équipe de France, tu ne peux plus le porter. C'est clair, c'est net, ce n'est pas réellement de débat, en vrai.
Perico.
C'est curieux que dans le sport, il puisse y avoir ce genre de comportement, de raisonnement. Pourquoi? Non,
pourquoi il y en aurait
justement, parce que non, ce sont des sports où il y a un adversaire et on se cartonne.
Il y a trois jours, un joueur turc a été sanctionné par l'UEFA parce qu'à la fin du match, il a fait le signe des loups gris.
Oui, c'est un groupe d'extrême droite.
C'est pas antisémite.
L'équivalent d'une quenelle. C'est extrêmement violent.
C'est l'équivalent d'une quenelle. On va dire comme s'il a fait une quenelle. Voilà. C'est plus grave. T'as raison.
C'est bien pire. Ça n'a rien à voir.
Il a été sanctionné immédiatement.
Par l'UEFA, mais dans son pays, pas du tout. Dans son pays, beaucoup de gens ont dit qu'il avait le droit de faire ça. Donc là, il faut plutôt se féliciter que la Fédé de rugby et que le sport français disent, écoute,
c'est surtout bête.
Dans notre pays et dans notre sport, ça n'est pas admissible.
C'est bête.
Tu es exclu. Voilà. Mais c'était pour te répondre sur le côté politique. Oui, il y a plein de sportifs qui prennent des positions politiques.
Et on termine avec la décision du jour, Paul.
Conséquence du changement climatique, la canicule rejoint officiellement la neige, le gel et le vent dans la liste des intempéries reconnues en France comme un motif de chômage technique pour les ouvriers du bâtiment. Oui, seulement maintenant, après un décret publié fin juin par le gouvernement. Lorsque Météo France émettra une alerte de vigilance canicule orange ou rouge, le travail doit cesser et le salarié sera indemnisé à partir du deuxième jour avec quasiment un maintien de salaire complet.
Il était temps, non?
Je sais
pas. Je suis étonné que...
Je ne savais même pas que ça existait.
C'est dingue, quand même.
La vache.
Mais c'est parce qu'on n'était pas habitué aussi. C'est pas non plus.
Ça fait 2003 la canicule.
Le béton réfléchit la chaleur.
Je suis d'accord avec vous. C'est pas ça le problème. Mais t'as parlé de 2003. Le nombre d'années. Après, ça dépend des régions en France.
Des vagues de chaleur, il y en a quand même. T'imagines que c'était le patron qui disait bon les gars, il fait 40 degrés.
Année on en a pas eu dans tout le nord de la France, on en a pas eu cette année.
En 2022 ça a été dingue, même dans les régions du nord où il n'y a jamais
ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça n'était pas entré en vigueur, c'est parce que c'est pas encore quelque chose qui a été assez récurrent sur les 20 dernières années.
Cette mesure aurait existé sous les pharaons, il n'y aurait pas grand-chose à visiter à Gizeh aujourd'hui.
Merci pour cette
dernière parole. C'est une très belle remarque. Merci, on va terminer là-dessus.
Bon sang, près de chez vous.
Merci.
C'est dur de terminer là-dessus, quand même.
C'est drôle, quand même.
Oui, c'est drôle. Et puis c'est Perico, c'est tellement...
C'est tellement Perico, c'est tellement toi.
C'est tellement Légacien.
J'en pense rien, en plus.
Allez, merci.